enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'avais préparé un message, je savais que je devais prêcher aujourd'hui depuis de longues dates, une longue période. J'avais préparé un message sur le couple en particulier, sur les différences entre les hommes et les femmes. Mais Dieu hier m'a complètement bouleversé, m'a demandé de laisser ça de côté pour le moment. Et il a mis sur mon cœur autre chose. Aujourd'hui je comprends, avec les témoignages que nous avons entendus, je comprends mieux. Je comprends pourquoi que le Seigneur m'a demandé de parler de sa parole, de la puissance de la parole de Dieu. Et c'est ce que je veux faire ce matin. Cette semaine encore, j'ai été bouleversé par la fidélité de Dieu. J'ai eu affaire à des personnes en grande difficulté, une maman et un enfant en très grande difficulté. Et bien, il fallait s'occuper de cette maman, cet enfant, et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que leur situation soit meilleure, et ça m'a coûté de l'argent. Et j'ai dit, Seigneur, toi, tu connais tout, tu vois tout. Vendredi, le problème était réglé. Vendredi après-midi, et vendredi soir, j'étais invité chez des chrétiens en Suisse. Et puis là, pendant qu'on était chez ces chrétiens, le papa de notre sœur appelle du Canada. C'est un homme que je connais, et elle lui dit, bah tiens, il y a Christian qui est chez nous, et puis j'ai pu parler avec cet homme, et sa fille lui dit, entre autres, papa, j'ai une somme d'argent à te donner pour une location qu'il avait faite, etc. Et cet homme dit au téléphone, tu donnes cet argent à Christian. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça représentait exactement la somme que j'avais dépensée pour aider cette maman et cet enfant. Dieu est extraordinaire, il est extraordinaire, il connaît tout. Vous avez entendu ce témoignage fantastique avec ce qui s'est passé dans la vie de Geneviève. Vous savez, Geneviève, c'est une amie d'enfance. J'ai grandi dans la même ville qu'elle, et on allait à l'école ensemble. On avait 10 ans, 11 ans, 12 ans, et on allait ensemble à l'école. Et c'est un peu par Geneviève et notre frère Jean-Pierre, Geneviève, sa maman, c'est par ces gens-là que j'ai découvert Jésus-Christ très jeune. Et vous savez, elle a un privilège extraordinaire, même si sa vie a été terrible et remplie d'épreuves, même si c'est une personne qui a été très éprouvée dans sa vie, elle a quand même eu la grâce de vivre deux résurrections. Deux résurrections. La résurrection de son grand-père. Et pour ceux qui ont lu le livre de Papa Jean, le premier livre, c'était un de ses premiers miracles qu'il a vécu dans son ministère. La résurrection d'un homme d'un certain âge, c'était le grand-papa de notre sœur Geneviève. Et puis la résurrection de son fils. Vous savez, lorsque j'ai eu ce coup de téléphone au mois de juillet dernier, le matin, sa voix était remplie d'émotions, remplie de larmes, remplie d'inquiétude aussi. Je lui avais promis que, eh bien, on intercéderait ensemble. Et c'est ce qu'on a entendu ce matin, c'est le fruit de nos prières, frères et sœurs. Et ça réjouit profondément mon cœur de savoir que Dieu nous entend. Il n'est pas sourd, il nous entend. Je voudrais simplement prendre un verset avec vous ce matin pour commencer. Je ne serai pas long, je vous promets, contrairement à Samuel. Je tiens mes promesses. J'entends certains dire, c'est parce qu'il a faim. Non, non, j'ai pas faim. Romains chapitre 1er, verset 16, juste ce verset. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient, les juifs d'abord, mais aussi les non-juifs. Cette parole m'encourage, frères et sœurs. M'encourage à ne pas avoir peur. À ne pas avoir de crainte. On n'a pas à avoir honte d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de notre Dieu, parce qu'il est vivant. Il est vivant et nous avons besoin de le voir, nous avons besoin de l'entendre, de l'expérimenter. Sa parole est réellement une puissance que nous devons utiliser. Même si... Alors là, bien sûr, ce texte a été écrit il y a à peu près 1950 ans. Mais la parole de Dieu n'a pas changé. Vous le croyez ? Et même si elle fait sourire parfois on parle de la parole de Dieu à des gens, ils sourient, ils se moquent de nous, ça n'a aucune importance. Moi je crois que la parole de Dieu continue à faire son effet. Certaines personnes, nos contemporains, rient peut-être aujourd'hui, mais un jour, peut-être, ils se souviendront de ce que vous leur avez dit à un instant précis de leur vie. Ils se souviendront peut-être, ils se rappelleront, alors que les luttes, la douleur ou le combat les atteindra. Il est important de ne pas avoir honte de parler de la bonne nouvelle. Moi, j'étais quelqu'un qui avait honte, qui me gênait, qui était timide. Et un jour, le Seigneur m'a repris terriblement. Je travaillais avec un homme dur. Dur en parole, dur physiquement aussi. Et puis, chaque fois que j'étais obligé de travailler avec lui, ça me gênait. J'aimais pas travailler avec lui. C'était un caractériel, il hurlait tout le temps, il jurait tout le temps. Et intérieurement, je me disais, celui-là, ça vaut pas la peine que je lui parle de Dieu. À la limite, je risque juste de prendre un coup de poing sur la figure, c'est tout. Des années ont passé, des années. Et puis un jour, je vois cet homme au fond de la salle. Et puis je suis allé vers lui, je lui fais part de ma surprise, et il m'a pris comme ça, par la cravate, et il m'a dit, tu m'as jamais parlé de Jésus, tu m'as jamais parlé de l'Évangile, alors que tu travaillais avec moi. T'aurais dû le faire, j'aurais gagné quelques années. Frères et sœurs, ça a été pour moi un choc, j'ai pris une leçon. Une leçon, et le Seigneur a parlé profondément à mon cœur. Vous savez, on est là, on cherche plein d'excuses, mais à ce moment-là, j'avais aucune excuse valable. J'avais plus qu'à baisser les yeux et lui dire, oui, tu as raison. Et je ne veux plus qu'une chose pareille m'arrive, c'est terminé. Je ne veux plus avoir honte de l'Évangile, parce que l'Évangile est une puissance, la puissance de Dieu pour le salut. L'Évangile explique comment que Dieu, dans sa puissance, sauve quiconque croit. Vous allez me dire, ben oui, mais il faut d'abord croire. Mais comment que les gens peuvent croire s'ils n'entendent pas parler de l'Évangile ? Moi, je me réjouis pour ces 60 personnes qui étaient là autour de cet événement dramatique, qui l'ont vécu en direct. C'est quand même extraordinaire de voir que des gens qui n'ont pas la foi sont capables, après avoir vu un incident pareil, eh bien tout d'un coup se mettre à prier. Vous avez entendu cette femme qui n'a jamais prié de sa vie, se mettre à prier et dire « c'est la première fois de ma vie que je prie ». Faut-il qu'il y ait des accidents pour que les gens se rendent compte qu'on peut prier ? Je ne le crois pas. On a un devoir, annoncer la parole de notre Dieu. C'est une réelle puissance. Romains 10, verset 9, je lis pour vous ce verset. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Amen. Nous devons confesser le nom de Jésus. Par notre bouche, nous devons confesser la parole de Dieu à qui veut l'entendre. Et Dieu nous donne des occasions. Alors il ne s'agit pas d'être comme des abrutis sur la rue ou sur nos lieux de travail et répéter aux gens toute la journée des versets bibliques. Il ne s'agit pas de cela. Je parle comme ça parce que j'ai connu cela. J'ai connu des gens qui agissaient comme ça. Ils faisaient beaucoup plus de mal que de bien. Mais pour nous, il est important de demander au Seigneur de créer des occasions favorables pour annoncer la parole de Dieu. Et parfois, il y a des difficultés dans notre vie qui nous permettent également d'annoncer la parole de Dieu et d'être des évangélistes en puissance. On peut prendre ensemble ce texte, trois versets dans le livre des Hébreux au chapitre 4 et au verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est à nu, à découvert, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Les Saintes Écritures, la parole de Dieu, eh bien, quand Dieu la met dans un cœur, elle provoque quelque chose. Elle provoque quelque chose. Elle change complètement l'attitude des hommes. Elle convainc les personnes de la réalité de Dieu. Elle convainc les gens de péché et du besoin de s'approcher de Dieu pour être sauvés. C'est l'effet de la parole qui fait cela. Elle change les cœurs. Elle transforme les personnes. Elle convertit les personnes. Se convertir, c'est faire demi-tour, changer de voie, tourner, changer de sens. La parole de Dieu est capable de consoler. Elle a été une consolation pour ma sœur. La parole de Dieu, elle a pu s'appuyer pendant ce temps de tempête sur la parole de notre Seigneur. Elle transforme, elle rend humble. Nous avons lu ici qu'elle pénètre. Elle pénètre comme une épée tranchante. Elle pénètre jusqu'au profond, au plus profond de l'être humain. Elle agit comme un bistouri qui fait une séparation, qui opère une séparation radicale entre les choses qui sont bien et les choses qui sont mal. On les comprend. Les choses mauvaises de notre vie prennent alors de la valeur et un sens. On se rend compte alors du mal qu'on est capable de faire lorsque la parole de Dieu touche un cœur. Dans les versets 13 et 14, ces deux versets contiennent un avertissement solennel concernant le fait que l'incrédulité ne demeure jamais inaperçu. Dieu voit, il connaît toutes choses. Et l'incrédulité est détectée par la parole de Dieu. Dans ce texte, nous avons vu que la parole de Dieu est plusieurs choses. Elle est vivante, premièrement. Ça veut dire quoi, elle est vivante? Vous avez déjà vu un livre qui est vivant? La parole de Dieu, elle, est vivante. Elle est active, il se passe toujours quelque chose avec lui. Par elle, c'est Dieu lui-même qui agit, de sorte qu'elle ne reste jamais sans effet. Est-ce que vous croyez cela? Elle ne reste jamais sans effet. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises dans ma vie. Elle apporte soit le salut, ou alors le jugement. L'effet est terrible. Il y a forcément un effet. Elle apporte soit le salut, soit le jugement. La Bible nous dit aussi qu'elle est efficace, donc elle est stimulante. Et frères et sœurs, ma vie est passionnante. J'aime le dire à qui veut l'entendre. La vie de chrétien n'est pas une vie triste. Très souvent, eh bien, quand on dit qu'on est chrétien, à l'extérieur, les gens tout de suite nous caricaturent comme des gens austères, tristes, qui ne vivent jamais rien. C'est l'inverse. C'est l'inverse. La vie est pétillante. Elle vaut la peine d'être vécue. Elle n'est pas triste. On est même capable d'aller claquer des pétards chez notre voisin. Ça, c'est une parenthèse. Il n'y a pas de raison d'être triste. On a le droit d'être joyeux, heureux, parce que Jésus vit dans notre cœur. Il est vivant à l'intérieur de nous. La parole de Dieu est vivante. Et on la voit en action. Et c'est pour ça qu'on est heureux. C'est pour ça qu'on peut se réjouir. Ou comme disent les jeunes aujourd'hui, on peut s'éclater. C'est une réalité, parce que Christ est vivant. Elle est tranchante, plus encore qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pourquoi? Parce qu'elle est la vérité. Elle est la vérité, il n'y a pas de place pour le politiquement correct. Vous entendez souvent cela, hein, il faut être politiquement correct. Dans notre société aujourd'hui, il faut veiller à être politiquement correct. Frères et sœurs, avec la parole de Dieu, ça n'existe pas. Ou c'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas de politiquement correct. Il y a le message de l'Évangile. Et non, on n'ira pas tous au paradis. Non, ce n'est pas vrai. Comme certains voudraient le faire croire, faire penser. Dieu est tellement bon, il n'y a pas de problème. On ira tous au paradis, ce n'est pas vrai. C'est le discours qu'il faut employer pour être ici-bas politiquement correct. Non. La parole de Dieu, elle est pénétrante, elle est tranchante. Elle est tranchante, ou c'est blanc ou c'est noir. Elle est tranchante, elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Elle pénètre au fond de l'âme, elle fait ces transformations qu'elle a à faire dans le cœur humain. Elle est capable de distinguer les sentiments et les pensées du cœur. C'est la parole qui nous juge, et nous, et pas nous qui jugeons la parole, c'est la parole qui nous juge. Nous ne pouvons pas juger la parole. Elle est parole de Dieu. Regardez voir comment que Jésus a fait pour résister à la tentation lorsque le diable est venu le tenter après son baptême. Qu'a fait Jésus ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a utilisé la parole de Dieu. Si Jésus a eu besoin d'utiliser la parole de Dieu, à plus forte raison, nous avons besoin d'utiliser la parole de Dieu pour obtenir la victoire. Jésus a obtenu la victoire à ce moment-là en disant au diable, « Il est écrit !» Il est écrit et il citait ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Et ainsi le diable a dû fuir loin de lui. Nous pouvons faire trois choses, à mon sens et mon expérience personnelle, trois choses qui vont nous aider dans notre vie de chrétien. La première, c'est de proclamer la parole de Dieu à haute voix. Il y a des situations dans notre vie où nous avons besoin de proclamer la parole de Dieu à haute voix. J'ai fait de nombreuses expériences dans ce domaine-là. Le fait d'annoncer par notre bouche la parole de Dieu, eh bien, va avoir une influence directe et puissante dans notre esprit, mais aussi dans notre être intérieur, mais aussi dans notre entourage. Est-ce que vous croyez cela ? Moi, j'en suis persuadé parce que je l'ai vécu. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Ailleurs, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, il nous est écrit « Dieu dit et la chose fut. » Amen. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et il en est toujours de même aujourd'hui. Dieu n'a pas changé parce que c'est une promesse qu'il a faite dans sa parole. Notre foi grandit en confessant la parole de Dieu par notre bouche. Faites l'expérience. Notre foi va grandir. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce ne sont pas nos paroles que nous prononçons, mais les paroles de Dieu qui a promis de les accomplir. Et il les accomplit. Ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui parle. Parce que j'utilise sa parole. J'ai fait une expérience extraordinaire lorsque je travaillais dans l'entreprise qui m'employait. Et j'ai vécu un moment extrêmement difficile. On m'avait mis dans un secteur très difficile où il y avait beaucoup de problèmes et de difficultés. Et il y avait déjà avant moi, en quelques mois, 4 agents de maîtrise qui étaient passés. Et ça avait été, c'était des échecs, échecs sur échecs. Et la situation était très mauvaise. On m'a demandé de prendre ce secteur. J'ai pas pris ce secteur avec joie, mais de toute façon, on m'a pas laissé le choix, hein. Et les choses ont très mal commencé. Pendant des semaines et des semaines, j'ai souffert. Je rentrais à la maison, j'étais attristé. Je travaillais dans un milieu dur, avec des gens durs, avec des moqueurs. Et d'autant, j'étais arrivé avec un handicap. Et ce handicap était le fait que j'étais croyant, chrétien. Et on me traitait de tous les noms. Hein. Vous pouvez imaginer pape, sous-pape, curé, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et j'ai commencé à me faire beaucoup de soucis. Je priais pour cette situation tous les jours je priais pour cette situation et rien ne bougeait, ça durait des semaines et des semaines. Je perdais du poids, je commençais à m'amaigrir, j'avais du mal à dormir, ma femme s'inquiétait pour moi, des collègues de travail s'inquiétaient pour moi, c'était un temps pénible. Et un jour, alors que la situation était encore plus, était pire que d'habitude, j'ai craqué, j'ai vraiment craqué. Et je ne voulais pas pleurer devant tout le monde. Mais craquer aux larmes, je ne sais pas si vous pouvez ressentir ça, je pense que certains d'entre vous ont vécu cela. Et je me suis enfermé dans les toilettes. Et là, je me suis mis à genoux devant la cuvette des WC. C'est peut-être pas un endroit idéal, hein, pour. Mais quand on appelle au secours, il n'y a pas d'endroit. Geneviève nous l'a dit tout à l'heure, elle était là sur son tronc d'arbre, il n'y a pas d'endroit. J'étais là et je criais à Dieu, « Seigneur, maintenant si tu ne m'aides pas, j'en peux plus. » Et je pleurais parce que je souffrais. Et tout d'un coup, une voix intérieure me dit, « Mais utilise ma parole. Pourquoi tu n'utilises pas ma parole ?» Et je ne comprenais pas. Et mais Seigneur, comment utiliser ta parole, que je ne vais pas me mettre à crier ta parole, là. Et j'ai compris. Je suis sorti de ce lieu et j'ai commencé à me remémorer des versets bibliques qui étaient gravés dans ma mémoire et j'ai commencé à les réciter simplement pour moi-même. Et dans la même matinée, Dieu a créé un événement. Un homme qui était le meneur de la bande, de l'équipe qui était là, m'a demandé à partir à l'infirmerie parce qu'il ne se sentait pas bien. Et puis moi, ma première pensée, c'est ben, il veut tirer au flanc, il veut aller se reposer un peu. Je lui fais son bond d'infirmerie, il ne revient pas. Je téléphone à l'infirmerie et puis le médecin me dit, attendez, laissez-le encore. Il revient 2 heures après, les yeux remplis de larmes. Quand je vois ça, je m'approche de lui, je lui dis, viens avec moi, ne prends pas ton poste, on va boire un café. On est partis ensemble boire un café et on a commencé à discuter ensemble. Et cet homme était en pleine dépression, je ne le savais pas. Il jouait au fort à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout était cassé en lui. Et il pleurait. Et je lui ai proposé de prier avec lui. Discrètement, on a prié ensemble. Puis il est retourné à son poste de travail. À partir de ce moment-là, à partir de ce jour, tout a complètement changé dans cette équipe. Complètement. Je ne reconnaissais plus l'équipe, mais je n'étais pas le seul. Mes supérieurs m'ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui se passe dans ton équipe? Au point où j'ai été convoqué par le directeur pour que je m'explique sur ce qui s'est passé. Et j'ai pu témoigner à mon directeur de ce que Dieu est capable de faire dans une vie. Bien sûr, il a trouvé ça curieux, bizarre, mais peu importe. Il a entendu le témoignage de l'Évangile. Il a pu entendre que chaque matin, je priais pour mon équipe. Et surtout, il a pu voir de visu, par rapport au résultat, que ça marchait. Amen. N'ayons pas honte. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. La deuxième chose, nous devons personnaliser la parole de Dieu. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont chancelants, c'est qu'ils ne confessent pas qui ils sont en Jésus-Christ. Nous avons une nouvelle identité en Jésus-Christ et nous devons vivre comme tels. Et moi, j'ai pris l'habitude de me placer dans les versets que je lis et je les fais miens. Faites les vôtres, ces versets. Quand je suis malade, j'ai l'habitude de dire, Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Je suis guéri. Le verset dit, nous sommes guéris, mais je suis guéri. Par tes meurtrissures, je suis guéri. C'est pour moi, ça. Ces paroles sont pour moi. Je puis tout par celui qui me fortifie, à savoir Jésus-Christ. Vous savez, j'étais encouragé un jour, il y a quelques années par cela, par notre frère Jean-Marc, qui est en haut à la régie actuellement. Je l'ai rencontré avec son épouse alors que je faisais une visite à l'hôpital, sur le parking de l'hôpital, et il venait d'apprendre qu'il avait un cancer. Ce frère m'a encouragé. Il a été pour moi, et j'oublierai jamais ce moment. Sa femme était en pleurs, et je la comprends. On venait de détecter un cancer grave chez lui. Sa femme était en pleurs, et lui, il esquissait un sourire et une sérénité que j'avais du mal à... Après, en venant, je ne sais pas, mettez-vous à sa place, on vous dit, vous avez un cancer. J'étais surpris, et je lui dis, mais Jean-Marc, qu'est-ce qui se passe maintenant dans ton cœur? Et il me dit là, sur le parking, avant qu'on prie ensemble devant tous les gens sur le parking, il me dit là, écoute, je ne sais pas, mais maintenant je me pose la question suivante. Je me demande comment que le Seigneur va glorifier son nom au travers de mon corps. Fantastique. Une confiance dans la parole de Dieu. Il a personnalisé la parole de Dieu. Et aujourd'hui, notre frère est en pleine santé. Amen. Et il travaille pour vous ce matin. Il est en train de faire l'enregistrement. Il est en pleine santé. Personnalisons la parole de Dieu. C'est pour moi que Jésus parle, c'est pour moi que Dieu parle. Pour moi. Nous ne pouvons jamais nous élever au-dessus de ce que nous confessons. Pourquoi? Parce que nos paroles engendrent le doute ou la foi, aussi bien dans notre vie personnelle que dans celle des autres. Ne soyons pas négatifs. Trop souvent, il y a des gens qui évangélisent, qui parlent de la parole de Dieu, mais ils sont complètement négatifs, dans le sens où ils mettent une pression terrible sur les gens et ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas joyeux et ils ne vivent rien avec le Seigneur, mais ils font peur aux gens en leur disant que s'ils ne se tournent pas vers Dieu, ils vont en enfer. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne manière d'annoncer l'Évangile? Je crois que la meilleure manière d'annoncer l'Évangile, c'est de vivre l'Évangile. Et nous sommes observés par les gens qui nous entourent, ils nous regardent. Et je crois que ça, c'est le meilleur témoignage. Ça vaut plus que des centaines et des centaines de paroles. Les gens vous regardent vivre. Ils vous regardent réagir par rapport à telle ou telle situation dans votre vie professionnelle ou socio-professionnelle. Ils voient ce que vous êtes en train de faire lorsqu'il y a une pression quelconque. Ils vous observent et ils voient peut-être que vous ne réagissez pas comme tous les autres et alors vous devenez intéressant. Pourquoi tu réagis de telle et telle manière dans cette situation? Et alors c'est facile de dire pourquoi. Amen. Enfin, troisième point, priez la parole de Dieu. Priez la parole de Dieu, dites, papa, tu as dit, Abba, Père, papa, osons appeler Dieu papa. Alors je sais que pour les personnes qui n'ont pas connu un père digne de ce nom, ou peut-être pas connu de père du tout, c'est peut-être difficile. Mais Jésus veut guérir vos blessures. Il veut réparer les plaies intérieures que vous avez. Il veut se faire découvrir à vous comme un vrai papa, un père rempli d'amour, un père à qui on peut faire confiance, un père qui a le souci de votre avenir. Dieu a le souci de votre avenir, vous croyez cela? Suivons-le simplement. Faites-lui confiance, faites confiance à ce papa, faites-lui confiance. De cette manière, nous sommes sûrs, en l'appelant papa, d'attirer son attention, parce qu'il a dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter » dans le premier livre de Jérémie, dans Jérémie, chapitre 1er, verset 12. Vous savez, dans ce domaine-là, j'ai fait une expérience. Alors, c'est mon expérience personnelle. Je ne dis pas que c'est une tactique que vous devez utiliser ou une technique, non. Mais très souvent, quand j'intercède, j'ouvre ma Bible comme ça, et je la feuillette. Et tout en priant avec les personnes, je promène mon regard sur la Bible et comme des éclairs, il y a des mots qui viennent et souvent les mots correspondent exactement aux besoins de la personne qui est à l'autre bout du téléphone. Encore la semaine dernière, après la permanence de prière, pas la semaine passée, la semaine d'avant, quand c'était mon tour, eh bien, j'ai eu des appels téléphoniques, des personnes qui me disaient que la requête était exaucée. Et chaque semaine, on a des témoignages. Mais j'utilise la parole de Dieu pour prier, intercéder pour moi-même, mais aussi pour les autres. J'ouvre la parole de Dieu, je prends des mots, je promène mon regard. C'est mon expérience personnelle, je le répète. Je ne dis pas qu'il faut le faire, c'est pas une règle que vous verrez écrite dans la Bible, mais c'est une expérience que j'ai faite et qui me fortifie, qui m'encourage dans mes temps de prière personnelle. Mais rien ne vous empêche de l'essayer. Rien ne vous empêche d'essayer. La parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Amen. Plaçons-nous sous l'autorité de la parole de Dieu. Je terminerai par là. Plaçons-nous sous son autorité. Remarquez bien que Jésus n'avait aucune ambition personnelle. Jésus ne faisait rien pour lui-même. Tout pour son Père. Aucun but personnel à atteindre. Seule la volonté de Dieu l'intéressait. Père, que ta volonté soit faite. Papa, dans le ciel, que ta volonté soit faite. Je veux faire ta volonté. Je ne comprends pas ce que tu veux pour ma vie. Nous sommes très cartésiens et on veut tout expliquer, on veut tout programmer pour notre vie. Et c'est justement parce que parfois il y a un os dans notre programme qu'on est perturbé et qu'on perd la joie. C'est pas vrai? C'est souvent parce que ça ne marche pas comme on veut, nous, qu'on perd notre joie, qu'on devient de mauvaise humeur et qu'on se met à rouspéter et à manifester notre mécontentement. Mais si on a cette réaction, celle de Jésus, Papa dans le ciel, je ne comprends pas là maintenant ce qui se passe, mais que ta volonté soit faite. Je veux te faire confiance et je veux que ton nom soit glorifié au travers de ma vie, de mon expérience, de mon existence. L'expérience était douloureuse pour ma sœur. Mais je suis sûr que les 60 personnes qui étaient là ce jour-là quand Joël a fait sa chute de 7 mètres n'oublieront jamais de leur vie ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Jamais. Je ne le crois pas. Jésus, lui, savait qui il était et il annonçait qu'il était le Fils de Dieu et qu'il était là pour accomplir la volonté du Père. De même, nous devons connaître notre identité en Christ. Nous sommes devenus héritiers. Vous savez ce que ça veut dire, héritier? Moi, je connais beaucoup de gens qui se réjouissent d'un héritage futur. Hein. Parfois, il y en a même qui attendent avec impatience que la vieille tante Georgette casse sa pipe pour obtenir l'héritage. Nous sommes héritiers depuis très longtemps de toutes les promesses que Dieu nous a faites. Et ça, c'est extraordinaire. Connaître notre identité, car en Christ, nous sommes devenus ses héritiers. Moi, je n'oublie pas ça. Dans mes temps de lutte, dans mes temps de combat, je sais, Seigneur, je suis ton héritier. Et c'est pour cela que je proclame que je suis fils de roi. Je le dis souvent, même si je suis le roi le plus fauché de la planète, ça n'a pas d'importance. Je suis fils de roi. J'avais fait une expérience fantastique un jour avec Gilbert Caristan dans un aéroport à Roissy-Charles de Gaulle. On avait beaucoup de bagages en trop et Gilbert m'a accompagné. Il m'a dit tout ce qu'ils ne prennent pas, j'étais en excédent de poids, je le savais, tout ce qu'ils ne prennent pas, eh bien, je le ramènerai sur Paris et quand tu reviens, eh bien, tu reprends ça et tu rentres chez toi. Ok, on fait comme ça. Le jour où je partais avec mon épouse, il y avait ce jour-là à l'aéroport, on attendait des personnalités et il y avait un tapis rouge. Et il y avait des colonnes de gens qui attendaient sur le tapis rouge, était au milieu, sur la colonne de droite, colonne de gauche, plein de monde. Et puis, je m'approche sur le tapis rouge. Et Gilbert me dit, Christian, là, c'est pas pour toi, il faut que tu ailles ou à gauche ou à droite. Alors je me tourne vers mon frère et je prononce la parole de Dieu. Mais en souriant, j'étais loin d'imaginer que Dieu allait écouter cela. Je dis, mais Gilbert, on est fils de roi, non? Alors il sourit à ce moment-là. Je suis interpellé par l'hôtesse qui est derrière le guichet. Elle me dit, monsieur, vous êtes diplomate? Alors, je lui dis non. Elle me dit, alors vous allez ou à gauche ou à droite. Vous faites la queue comme tout le monde. J'allais m'exécuter à ce moment-là. Oui, je n'étais pas diplomate en fait. J'étais fils de roi, c'est bien plus. À ce moment-là, un monsieur qui est derrière le guichet, le tapis rouge, il me fait, non, monsieur, venez, approchez-vous. Je m'approche. Il prend tous mes bagages. Mon billet, mon passeport, il tamponne tout et tous mes bagages sont partis. Pour les rois, les balances ne sont pas les mêmes. Hein, il y a deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Amen. Simplement, moi j'avais dit ça en rigolant, mais Dieu, lui, c'est sa parole. C'est sa parole. Frères et sœurs, soyons attentifs à cela. C'est peut-être des détails qui font rigoler. J'ai fait d'autres expériences dans ce domaine, hein, comme ça, en prononçant la parole de Dieu, marrante aussi, mais qui marche. Dieu a beaucoup d'humour. Hein. Souvent, on je ne sais pas, il n'y a pas de verbe, je ne trouve pas le verbe, mais on met Dieu, on place Dieu comme quelqu'un de très austère. Mais c'est faux, il est rempli d'humour, il nous aime. Et quand on proclame sa parole, il l'accomplit. Pourquoi? Pour parler au cœur et pour nous encourager, pour nous faire du bien. Écoutez bien ce verset, je terminerai par là. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ésaïe 55, verset 11. C'est une parole extraordinaire, fantastique. Vous savez, un jour j'ai été confronté à quelque chose, pour moi qui était vraiment étonnant. J'étais à Nice, prêcher chez notre frère Christian Caddy, et une femme, dans l'après-midi, une coiffeuse, avait témoigné à une actrice de cinéma qui était chez elle en pleurs. Et elle lui a simplement parlé de... Elle lui a donné quelques versets bibliques. Cette femme était athée, elle ne croyait pas en Dieu. Elle lui a donné des versets bibliques pour l'encourager. Et pendant que je prêchais, une personne est venue déposer un papier sur le pupitre me demandant d'aller visiter une famille qui habitait à Monaco, dans telle et telle rue. Alors je vais voir le pasteur, je lui dis, tiens, on m'a remis ça. Et puis il était tard, il était quasiment minuit le soir. On n'entend pas, pardon. Il était tard, quasiment minuit le soir, et le frère me dit, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas? Je lui dis, mais tu connais ces personnes? Il me dit, non, mais ce que je sais, c'est que c'est le quartier le plus chic de Monaco. Et si on va là-bas, c'est certainement une personnalité importante ou quelqu'un de très riche. Alors, on s'est décidé à y aller quand même. On sonne à la porte, porte électrique qui s'ouvre, et là, il y a un grand parc. Et dans ce parc, des lumières, des statues de partout. Je dis, mais où c'est qu'on est là? Oui, mais on est fils de roi, hein, alors on a le droit parfois de rentrer dans des endroits comme ça. Et là, un homme nous attendait sur le perron, en larmes, sa femme en larmes. Lui était chanteur à la Scala de Milan et sa femme est une actrice de cinéma. Ces gens-là vivaient dans une misère morale et spirituelle terrible. Le simple fait que cette femme lui avait donné comme ça des versets bibliques a bouleversé le cœur de cette femme. Je raccourcis l'histoire parce que j'ai promis d'être court. Il me reste 2 minutes sur mon cadran. Eh bien, on a prié avec ces deux personnes qui sont tombées à genoux dans leur salon, leur nez coulait. C'était vraiment pas chouette à voir, hein, pour des gens. Mais ils se sont humiliés devant Dieu, ils ont demandé pardon à Dieu, ils ont été touchés. Et ils sont venus plusieurs fois visiter l'église de notre frère Christian. Ils voyagent partout le monde, mais je sais que Dieu a planté une graine. N'hésitons pas à parler la parole de Dieu autour de nous. Jérémie 23, verset 29, « Ma parole est comme un feu, comme un puissant marteau qui brise le rocher. » La parole de Dieu est pleine de puissance et de vie. Vous le croyez ce matin ? Amen. Elle est pleine de puissance et de vie. Autrement dit, il faut que vous l'ayez d'abord dans votre cœur avant de pouvoir l'utiliser. Lisez la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Ce matin, je veux simplement vous encourager. On a été tellement encouragés par ce qu'on a entendu, par le témoignage de Jacques, par le témoignage de Geneviève, parce que j'ai vécu cette semaine, parce que Claude a vécu cette semaine, Bertrand, on est tellement encouragés. La parole est vivante. Amen.
Ich kenne einen Pastor.
Je connais un pasteur.
Von Rheinach, das ist nicht weit von hier.
De Rheinach, près de Bâle, en Suisse.
Ein Sri Lanka Pastor.
Un pasteur Sri Lankais.
Und er war am Oktober 2004 dort.
Et il avait été là-bas en octobre 2004.
Und redet, es wird etwas über das Land kommen hier im Meer.
Et puis il parlait d'une catastrophe qui allait venir sur le pays en provenance de la mer.
Und die Menschen haben ihn ausgelacht.
Et les gens se sont moqués de lui.
Aber er lasst sich, egal, er hat's gesagt.
Mais il a tenu, il s'est rangé du côté de ce qu'il avait dit.
Er kommt retour.
Il est revenu en Suisse.
Und der Tag, wo das passiert.
Et le jour où c'est arrivé, où la catastrophe est arrivée.
Dann redet der Herr zu ihm.
Le Seigneur lui avait parlé.
Und sagt, sag in deinen Kinder, in meinen Kinder.
Dis à mes enfants qui sont là-bas.
Sie sollen von dort fort und sollen auf einen Berg, ich weiß den Namen nicht mehr, auf einen Berg speziell.
Et puis cette parole du Seigneur disait qu'il encourage ses frères et sœurs Sri Lankais de quitter les lieux et de monter sur une montagne particulière.
Und er sagte, Herr, ist das von dir oder von wann kommt das? Er hat sie zuerst geprüft.
Et au début, il s'est examiné lui-même, il doutait, il a dit, Seigneur, mais est-ce que ça vient de toi ou c'est d'ailleurs?
Und dann hat er gespürt, jawohl, es ist vom Herrn.
Et puis il a ressenti que c'était le Seigneur qui lui parlait.
Er nimmt das Telefon und telefoniert.
Il a pris le téléphone et a appelé.
Und sagt, Geschwister, geht so schnell wie möglich und feiert die Weihnachten in diesem Berge.
Et puis il a dit aux églises là-bas, prenez vos affaires et partez et montez sur telle et telle montagne célébrer Noël.
Es wird etwas geschehen.
Quelque chose de grave va arriver.
Und sie haben gehorcht.
Et ils ont écouté, ils ont mis en pratique cette parole.
Und dann haben sie noch 150 mitgenommen.
Et puis ils ont encore entraîné dans leur sillage 150
Heiden,
personnes non croyantes.
Wo nicht glauben, aber haben mitgenommen.
Mais ils les ont invités à venir avec eux.
Und dann kommt das Schreckliche.
Et puis le tsunami est arrivé.
Und da, wo sie ihre Gemeinde haben,
et là où ils avaient le bâtiment de l'église,
das muss ich auch noch sagen, der, wo das hat, wo er es verlehnt hat,
je vais encore rajouter celui qui avait loué ce bâtiment,
der hat unbedingt die letzte Zeit einfach immer wollen, kaufet, und es waren ihnen nein.
Il avait toujours voulu pousser l'église à acheter le bâtiment et le pasteur là-bas sur place disait non, j'ai pas la liberté de le faire.
Und ich kann euch sagen, alles ist weg.
Il n'y a plus d'église, plus de bâtiment d'église, il n'y a plus rien.
Und die alle andere Geschwister sind gerettet.
Et tous ces frères et sœurs là-bas sur place ont été sauvés.
Und die 150 haben sofort ihr Leben Jesu gegeben.
Et les 150 personnes ont immédiatement donné leur cœur au Seigneur.
nach Wiener Weihnachten sagt er, er muss hingehen.
Après Noël, il s'est dit, il faut que j'aille là-bas.
Und ich war auch dabei, Sonntagabend haben wir gebetet für ihn, dass er wirklich der Herr ihm die Gnade, Kraft gibt und Sieg. Es ist nicht so einfach.
Nous avons prié ensemble pour lui le dimanche suivant pour qu'il puisse y aller, qu'il ait la force, le courage, la grâce.
Und ich kann euch sagen, von paar nicht viele Menschen ist so viel Geld wenigstens zusammengekommen, dass er Zelte aufbauen kann.
Et nous avons aussi rassemblé de l'argent et il a pu acheter des tentes et, afin de venir au secours des gens en détresse.
Aber sie haben noch nicht zu essen bekommen.
Mais ils n'ont pas encore reçu à manger.
Und einen Bruder, ein Pastor auch, hat gesagt, es war ihm auch auf dem Herzen, jetzt rufe ich Rotkreuz an.
Et puis un pasteur avait à cœur d'appeler la Croix-Rouge.
Sagt, so viel Geld ist gegeben worden.
Tellement d'argent avait été donné à cette organisation.
Und jetzt wollen sie Hotel wieder aufbauen.
Et ils veulent reconstruire des hôtels, etc.
Und in den armen Menschen nicht geholfen werden.
Et puis les pauvres, on ne les aide pas.
Und er hat im Namen Jesu gebetet und hat Rotkreuz telefoniert.
Et puis il a prié au nom de Jésus, il a appelé la Croix-Rouge.
Und hat gesagt, in diesem Ort ist noch nichts gekommen und die Leute haben nichts zu essen.
Et puis il avait indiqué le lieu précis où étaient ces gens en disant que ces personnes n'avaient encore pas reçu de secours.
Und jetzt haben sie zu essen bekommen.
Et maintenant, ils viennent d'avoir enfin à manger.
Wir sollen den Courage nehmen zur Ehre Gottes.
Nous devons être courageux au nom de Jésus.
Amen. Und Amen. Der Herr schenkt uns die Gnade.
Le Seigneur nous donne la grâce.
Lob und Dank. Und darum können wir uns freuen und fröhlich sein.
Et nous pouvons nous réjouir.
Ich freue mich, jetzt wird er zurückkommen.
Et je me réjouis que le pasteur va revenir.
Und vielleicht ist er einmal hier.
Et peut-être qu'un jour il témoignera ici aussi.
Aber sehen wir, wie der Herr sie heute noch bestätigt und immer und mehr.
Mais considérons que le Seigneur aujourd'hui encore se prouve son existence et agit et œuvre.
Darum sollen wir uns wirklich bewusst sein, wir haben einen lebendigen Gott und den wollen wir dienen draußen, nicht wenn wir zusammenkommen.
Et nous avons, soyons conscients, nous avons un Dieu vivant que nous voulons servir au dehors, pas seulement dans nos quatre murs.
Halleluja, Lob und Dank.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.